France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage. Une femme qui depuis plus de 40 ans se bat aux côtés des victimes de toutes les formes de pollution. C'est ainsi qu'on la retrouve aujourd'hui dans le dossier Lubrizol, mais également en porte-drapeau des opposants aux pesticides et au nucléaire, après avoir été aux côtés des victimes des marées noires et des inondations, et j'en passe. Autant dire que notre invitée va avoir matière à réagir ce soir à l'heure où s'achève aussi à Madrid la COP25. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marion Lelay. L'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec à la une ce soir, bien sûr, la réforme des retraites et le climat politico-social du pays. On en parlera évidemment avec notre invité qui a été ministre et eurodéputé. Juste avant 19h, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, le succès des gratiférias, ou quand les citoyens font de l'économie circulaire à leur façon.
Donc vous prenez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction.
Pas de caisse.
Pas de caisse, non.
Voilà, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la planète. À 19h20, au téléphone sonne, la revanche du vélo et des nouvelles mobilités. C'est aussi une des conséquences de la grève des transports qui nous oblige à réfléchir à nos modes de déplacement. On en parle au 01 45 24 7000. Appelez-nous, le standard attend vos appels.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Corinne Lepage.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h ce soir. Alors, peut-être une question d'actualité pour commencer qui va vous intéresser. Vous agissez pour le compte de l'association Respire, je crois,
oui,
suite à l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre dernier. Il se trouve que cette semaine, la Direction régionale de l'environnement de Normandie, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires se sont dit favorables à la réouverture partielle du site. Le préfet de Seine-Maritime a dit tout à l'heure que la réouverture partielle allait être autorisée dans les prochaines heures. J'aimerais savoir comment vous réagissez.
Je comprends bien les nécessités économiques et je suis bien consciente de l'importance de la société Lubrizol pour l'économie locale. Il n'en demeure pas moins que je trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal pour plusieurs raisons. La première, c'est que le préfet a adressé, il y a un mois maintenant, le 10 novembre, une mise en demeure à Lubrizol, à Normandie Logistique aussi d'ailleurs, qui est l'entreprise voisine, de faire toute une série de travaux très importants dont certains auraient dû être réalisés au mois de juillet et qui touchent, c'est pas tout à fait rien, à la sécurité incendie, au passage. Je ne sais absolument pas l'heure qu'il est si tous les travaux exigés ont été réalisés. Le préfet a dit au Coderst que ce serait vérifié avant que ça redémarre. Pour le moment, on n'en sait rien et il n'y a rien d'affiché sur le site de la préfecture qui permette de dire que toutes les réserves ont pu être levées. Premier problème. Deuxième problème. En mars, puis en juillet 2019, le préfet a autorisé une extension très considérable du stockage de produits dangereux chez Lubrizol. Il l'a fait en dispensant cette entreprise. Il avait le droit de le faire. C'était légal. Mais c'est pas pour ça que c'était bien fondé. En dispensant cette entreprise d'une étude de danger et d'une évaluation environnementale. Je ne comprends pas qu'on autorise le redémarrage, même partiel, parce que le redémarrage de la suite va suivre, évidemment, sans que cette étude de danger, la précédente date de 2009, et sans que l'évaluation environnementale n'ait été faite. C'est absolument pas normal, et je pense que c'est un risque que l'on fait à nouveau courir à la population.
Ça veut dire quoi? Qu'on n'a toujours pas tiré les conséquences de ce qui s'est passé?
C'est que, comme d'habitude, j'allais dire, les considérations économiques l'emportent sur tout le reste.
On ne sait toujours pas ce qui a provoqué le sinistre, en fait.
Non, mais enfin, je dirais que l'incendie, vous savez, est commencé chez Lubrizol ou chez Normandie Logistique avec des produits Lubrizol, je ne suis pas sûre que ça change la face du monde.
Les conséquences sanitaires de cet incendie, Corinne Lepage, est-ce qu'on les connaît vraiment précisément maintenant?
Non. Le préfet a communiqué au départ en disant « il n'y a pas de toxicité critique », ce qui est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez, vous n'êtes pas mort. C'est ça la toxicité critique. Alors, vous n'êtes pas mort à 50 sur 100, vous n'êtes pas mort à 5 sur 100, vous n'êtes pas mort à 1 sur 100. C'est les seuils. Mais pas de toxicité critique, ça ne veut pas dire pas de toxicité.
On sait qu'il y a des analyses qui ont été faites, par exemple, je crois, sur les pompiers, qui ont montré quand même des taux anormaux.
Oui, et une chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a eu une première série d'analyses en octobre, on devait avoir la deuxième en novembre. Vous l'avez vu sortir, vous? Moi, pas. Pourquoi? L'ANSES demande à ce que le suivi des produits issus de l'agriculture locale soient suivis pendant un an. Donc oui, il n'y a pas eu, par exemple, sur le plan des dioxines, apparemment les niveaux ne sont pas très importants, mais les conditions dans lesquelles de toute façon les prélèvements ont été faits ne permettent pas de mesurer aux normes, par rapport aux normes existantes, tout simplement parce qu'on a mesuré en mètres carrés et que les normes se calculent en mètres cubes. Vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Donc, c'est immesurable par rapport à ce que l'on connaît. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de questions. Les gens ont le sentiment qu'ils sont méprisés, d'une certaine manière, pas pris en compte, même si tout le monde est très conscient de ce qu'il faut que la vie continue. Certes, même si certains voudraient la fermeture complète de Lubrizol quand même. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est tout à fait anormal que cette usine redémarre. Et j'observe du reste que les associations de défense de l'environnement, comme les médecins, ont voté contre.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'un jour on tienne un petit peu mieux compte de ces fameux risques?
Vous savez, on confond le risque et le danger, d'abord. Et j'ai publié avec un spécialiste qui s'appelle Patrick Lyons dans Le Monde il n'y a pas très longtemps un papier pour expliquer que notre législation avait évolué de telle manière que la question des risques dits non irréversibles, la sensibilité des publics, parce que c'est pas pareil si vous êtes un bébé, une personne âgée ou un garçon de 25 ans en pleine force de l'âge, tout cela n'est plus pris en compte quand on fait les périmètres de protection contre les risques technologiques. Et je pense que c'est extrêmement dommageable pour les populations.
Corinne Lepage, il y a beaucoup de sujets qui vous intéressent dans l'actualité de la semaine, parce que vous avez gagné un autre de vos combats cette semaine, Beynac, contournement routier de Beynac en Dordogne. On avait presque oublié, hein, on va le dire. La Cour administrative d'appel de Bordeaux vous a donné raison au nom des opposants à ce projet. Ça faisait 30 ans que ça durait. Elle a condamné le département à remettre les lieux en état, à démolir ce qui a été construit. Tout ça va coûter très cher, certains ne comprennent pas.
Ça va coûter un peu d'argent, mais si vous voulez, ce qu'a voulu le tribunal et le rapporteur public l'a dit très clairement, c'est que ça allait comme ça, pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, qui jouent la théorie du bulldozer. C'est-à-dire, je fonce, je fais comme si j'allais de toute façon gagner en justice parce que je ne peux pas perdre, et peu importe. Eh ben non. Là, on a un département qui avait sur le dos une procédure de référé suspension qui a fait comme si ça n'existait pas. Le Conseil d'État lui a donné tort. Le tribunal lui a demandé de démolir. Il a refusé une première fois. Et là, effectivement, c'est jugé au fond. Le projet est illégal. Il doit démolir les piles de pont qui ont été mises en place et remettre les lieux en état. Il faut savoir que c'est un lieu magique. C'est un lieu d'abord sur le plan du patrimoine historique remarquable. Et au passage, je voudrais remercier Stéphane Bern qui a beaucoup soutenu cette action. Patrimoine historique remarquable et patrimoine naturel extraordinaire. 127 espèces protégées dans ce lieu magique de la Dordogne. Tout ça pour améliorer la circulation automobile, ça suffit, ça va comme ça.
Alors vous avez gagné ce combat judiciaire. Parmi vos autres combats du moment, il y a évidemment les arrêtés anti-pesticides, ils se multiplient. Ils ont raison les maires d'agir sur ce terrain-là.
Écoutez, on obtient quelques succès. J'ai eu l'honneur de plaider cette semaine pour Malakoff Nanterre et Bagneux au tribunal de Cergy-Pontoise, où j'avais gagné pour Sceaux et Malakoff. Il y a maintenant 3 semaines ou 1 mois, où le tribunal a considéré que la dangerosité du glyphosate justifiait l'intervention des maires. Et je dirais que la suite de l'histoire leur a donné raison, puisqu'on en a peu parlé, même presque pas. Mais il y a 3 jours, l'ANSES, donc qui est l'agence de santé, a retiré
un certain nombre de
36
produits.
Pesticides contenant du glyphosate, donc il n'y en a plus que 30 maintenant, la moitié a été retirée, et il n'y a aucune raison que cette deuxième moitié reste sur le marché. C'est toxique, c'est reconnu puisque c'est retiré, je ne vois vraiment pas pourquoi on continue à exposer les populations ces produits qui sont dangereux, à commencer par les agriculteurs.
Ça veut dire que quand on mène ce genre d'action, on provoque une réflexion, on fait avancer le débat?
Écoutez, moi je suis convaincue qu'on a changé de monde et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait progresser? Qu'est-ce qui fait que les questions de santé, les questions de climat, on y reviendra, progressent? C'est la société civile, représentée par des collectivités publiques, souvent, par des villes, par des ONG, et les juges qui sont progressistes et qui se rendent compte qu'on ne peut pas continuer comme ça et que les principes humanistes, parce que c'est de ça dont il s'agit, le droit à la vie, le droit à la santé, qui sont à la base de nos organisations sociétales, justifient que l'on prenne un certain nombre de mesures que les États ne veulent pas prendre.
Alors on parlera justement des États avec la fin de la COP25 et avec ce que fait l'Union européenne, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine ici en France, comme tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anna Buy, avec bien sûr à la une, cette semaine, la réforme des retraites.
On lâchera pas jusqu'au retrait. Et j'espère que la grève va prendre partout pour qu'on me fasse plier, parce qu'on va
vous
faire plier.
Reculer,
et on a
un seul
objectif, c'est vous faire plier. Et ça, on lâchera pas. Ça, on lâchera pas. Vous savez, on va pas lâcher. Jusqu'à temps que vous retirez. Il n'y a pas de négociation. Et pas de problème, que le meilleur gagne.
C'était au début de la semaine à la Gare du Nord à Paris. Échange houleux entre des grévistes et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Tension maximale autour d'une réforme qui restait dans le flou. Même le MEDEF commençait à s'impatienter.
Le manque de clarté du gouvernement conduit, de fait, à mobiliser les gens parce qu'ils ne savent pas.
Mais depuis mercredi, on sait, car Édouard Philippe a enfin abattu ses cartes.
Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève.
Voilà pour les grands principes, mais il y a autre chose.
Nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans, mais sans les y forcer. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps.
Travailler plus pour ne pas gagner moins, voilà le principe de la décote, un relèvement de l'âge de départ qui ne dit pas son nom. Pour Laurent Berger de la CFDT, c'est un casus belli.
Il y aura un âge d'équilibre à 64 ans, cette ligne rouge est franchie.
Et voilà comment on fait sortir le loup de la bergerie. La CFDT rejoint les contestataires, toujours aussi remontés, à commencer par les profs qui ne sont pas plus rassurés qu'avant.
C'est des cacahuètes qui nous sont jetées. Sur le fond, il n'y a pas de réel changement par rapport à ce qui était annoncé.
Il n'y a guère que le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a le sourire au point de faire le service après-vente de la réforme.
Quand on donne 85% du SMIC à tous les retraités, pour les petites retraites, pour les indépendants, pour les artisans, pour les agriculteurs, c'est un vrai progrès social.
Une réforme qui concernera tout le monde, mais plus particulièrement les jeunes générations.
Et mes enfants, ils vont avoir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir, mes enfants, comme retraite? Ils vont devoir travailler jusqu'à temps qu'ils vont dans le cercueil.
C'est-à-dire que je vais avoir un collègue, parce qu'il est né un an après moi, il va pas avoir les mêmes droits que moi. C'est dégueulasse, c'est inadmissible, c'est une banqueroute morale.
Résultat, une nouvelle journée d'action unitaire la semaine prochaine. Et d'ici là, la poursuite de la grève à la SNCF, Laurent Brun de la CGT.
Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça.
Un gouvernement qui réussit à mettre tout le monde d'accord, de la gauche à la droite de la droite, jusqu'à Marine Le Pen.
Je soutiens ceux qui s'opposent à cette réforme. Je demande au gouvernement de la retirer.
Et comme le dit Olivier Besancenot, une réforme qui rabiboche toute la gauche.
Je tiens à remercier Édouard Philippe du fond du cœur d'être intervenu, puisque je crois qu'il a été vachement plus efficace que nous tous réunis pour donner un second souffle au bras de fer et à la mobilisation sociale.
À la SNCF, aucune amélioration du trafic à attendre dans l'immédiat.
Je serai en grève jusqu'au retrait, et s'il faut manger la bûche de Noël sur les piquets de grève, vous m'y trouverez.
Oh, the weather outside is
frightful. Ah non, moi je vois pas tenir jusqu'à Noël, c'est carrément pas possible. Moi là, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Je suis rentré chez moi à 1h du matin, c'est pas raisonnable.
Aujourd'hui, le trafic de vos trains sera extrêmement perturbé. La SNCF recommande à ceux qui le peuvent d'utiliser d'autres moyens de transport et notamment le covoiturage.
Moi, j'ai créé un système de covoiturage. Bah, je cherchais tous mes employés de A à Z. J'ai pas le choix, sinon je ferme le resto.
Uber, c'est trop cher. J'ai pas de métro, vélo, quoi. Pas d'autre choix.
Dans les grandes villes, je les plains, certains, les pauvres. Pour aller au travail, c'est pas évident. Hein.
Et encore merci à Anna Buy. Une semaine en France, toujours en compagnie de Corinne Lepage. Corinne Lepage, vous étiez ministre en 1995. Vous étiez dans le gouvernement Juppé lors des grandes grèves contre la réforme des retraites, déjà contre les régimes spéciaux. Quels souvenirs vous en avez ? C'est la même chose.
Ben, j'ai le souvenir de gens de mon ministère qui se levaient à 4h du matin pour venir, comme les gens de mon cabinet aujourd'hui. Les gens n'en peuvent plus. Moi, je trouve que la violence qui monte, elle est liée à cette extrême fatigue. J'ai des collaborateurs, ils partent à 4h30. Une de mes collaboratrices ce matin m'a envoyé une photo à 5h du mat. Il y avait déjà des bouchons. C'est des conditions de vie absolument épouvantables. Alors, je ne suis pas en train de prendre position contre ceux qui font grève, mais je dis simplement que c'est une situation qui n'est pas durable pour nos concitoyens.
Bon. Et on va en parler tout à l'heure au téléphone, ça. On parlera des transports et des
déplacements. Deuxièmement, en ce qui concerne 95, j'observe d'abord que la réforme elle avait été précisée beaucoup plus vite. Et que Alain Juppé avait fait une déclaration à l'Assemblée nationale très précise, qui avait été du reste accueillie très positivement par l'Assemblée nationale. Bon, il avait le soutien de la CFDT, puisque Nicole Notat soutenait. Et pourtant, il a dû d'abord retirer les régimes spéciaux.
Il a gardé la partie sécurité sociale.
Et ensuite, Jacques Chirac, qui lui sentait le pays, qui lui avait ce contact, je dirais, inné avec les Français, a très vite compris qu'il fallait reculer. Et puis il y a eu les ordonnances de 96 derrière. Ce qui me frappe ici, c'est d'abord...
Il ne sent pas le pays, Emmanuel Macron ?
J'ai pas l'impression. Très franchement, j'ai pas l'impression. Il joue. J'ai l'impression qu'on est en face d'une équipe qui joue en se disant « On va finir par avoir l'opinion publique avec nous, donc ils vont bien être obligés de céder. » Sauf que je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, un, l'histoire de l'âge pivot ne passe pas. Chez personne, pas la CFDT, mais ça passe pas. Et deuxièmement, s'ajoute à cette contestation sur cette réforme la suite des Gilets jaunes, c'est-à-dire une forme de refus de l'action du président de la République et du gouvernement, et qui devient quelque chose, qui est une forme de détestation, qui devient affective, au-delà de l'analyse politique. Et donc, je pense que ça va être extrêmement difficile. Et moi, je ne comprends pas. À partir du moment où M. Berger avait dit « j'ai une ligne rouge », qu'on l'ait franchie. C'est une provocation à l'égard de la CFDT, donc il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui.
Emmanuel Macron joue, dites-vous, Corinne Lepage, vous l'aviez soutenu pourtant en 2017. On a l'impression que vous, votre déception est à la hauteur de votre soutien de l'époque.
Vous savez, moi je suis, c'est un défaut peut-être, je suis assez franche du collier. J'ai soutenu Emmanuel Macron parce que j'y croyais, très franchement. J'aimais bien beaucoup de choses qu'il y avait dans le programme. Je constate qu'elles n'ont jamais été réalisées en réalité. Notamment dans la gouvernance, dans le fait de faire du bottom-up et pas de toujours du haut en bas, et c'est pire que jamais.
Vous parlez d'hyper-présidentialisation. C'est ce que vous avez dit dans votre dernier livre, À bout de confiance, de la morale en politique, publié il y a 2 ans déjà. Oui. Vous n'avez pas changé d'avis.
Non, pas du tout.
Il y a une dérive antidémocratique même, dites-vous.
Je pense que j'avais raison un peu avant tout le monde. J'ai écrit ce livre pendant l'été 2017. Il est sorti à la fin de l'année 2017. Où je disais, il peut encore faire autre chose quand même. C'était pas condamné, mais c'était de dire les tendances qui se dessinent, que ce soit sur l'organisation d'En Marche, que ce soit sur la prétendue exemplarité, que ce soit sur d'autres sujets. C'était une hyper-présidentialisation, alors que ce qu'on avait proposé aux Français, c'est de reprendre en main leur destin. C'est exactement le contraire.
Sur les dossiers écologiques, Corinne Lepage, qu'est-ce que vous en dites de l'action d'Emmanuel Macron? Il a quand même abandonné le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Là, récemment, le projet Europa City. Il a mis en place cette convention citoyenne sur le climat. C'est à mettre à son crédit, ça, quand même?
Oui. Tout n'est pas acheté, il faut être honnête. Même si Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'il y a des raisons de sécurité civile au moins aussi importantes que les raisons écologiques, entre nous, soit dit. Et du reste, Nicolas Hulot ne l'avait pas tiré à son profit cette affaire-là. Il y a peut-être des raisons pour cela. Bon, Europa City, c'est une très bonne idée. Franchement, c'est un projet qui n'aurait jamais dû aller jusque-là où il est allé. Et la conférence citoyenne, on va voir ce qu'elle va donner. Mais j'ai bien peur que si elle a envie de faire des choses importantes, elle ne puisse pas les faire. Je dirais que globalement, je suis déçue. J'avais obtenu pendant la campagne l'arbitrage en faveur du maintien à 2025 de la part du nucléaire dans le mix énergétique. C'était un combat qu'on avait eu pendant la campagne, qui avait été gagné par les écologistes, qui a été perdu par la suite. Je ne suis pas du tout satisfaite de la manière dont les blocages autour des énergies renouvelables, autour de l'autoconsommation collective, tout cela perdure, même si dans la communication, on est absolument formidable. Sur la biodiversité, très franchement, on continue à autoriser des projets. Alors, on a abandonné les forages en Guyane, et c'est tant mieux, mais c'est parce qu'on n'a rien trouvé, c'est parce que les autorisations, elles étaient données. Mais très franchement, le compte n'y est pas du tout. Et puis, sur tout ce qui est les pesticides, vous voyez bien que ce sont les maires qui sont obligés de monter au créneau parce que l'État fait pas son métier, qui est de protéger la population. C'est quand même ça, la première chose qu'on demande à un État, c'est d'assurer l'intégrité physique et sanitaire de la population.
On parlera évidemment de la COP25 dans un instant, Corinne Lepage, mais dans l'actualité de la semaine, il y a aussi, et ça je voulais qu'on en parle quand même, la mise en examen de François Bayrou oui. dans l'enquête sur les assistants parlementaires des eurodéputés du Modem. C'est un dossier que vous connaissez par cœur, puisque vous étiez vous-même eurodéputé Modem à cette époque et que vous avez refusé, vous, si j'ai bien compris...
Si vous avez bien compris, j'ai refusé de mettre un assistant voilà. parlementaire à disposition du Modem quand on me l'a demandé. Bon, François Bayrou...
Il dit que vous êtes une délatrice parce que vous l'avez dit dans un de vos livres.
Attendez, moi je n'ai jamais dénoncé personne. C'est Madame Monteil, Front National, qui, en 2017, a dénoncé la France Insoumise et le Modem. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit dans un livre, effectivement, en 2015, livre passé totalement inaperçu, hein, très franchement. Ce n'est pas un succès de librairie. Les mains propres. Je parlais du Front National au niveau européen, et je disais, ce n'est pas les seuls. Et je disais, moi-même, j'ai refusé, c'est tout, de mettre un assistant parlementaire à disposition du Modem quand on me l'a demandé. Ça ne va pas très loin. Si François Bayrou avait considéré que j'étais une délatrice, il fallait me faire une plainte en diffamation à ce moment-là. Il ne l'a pas fait. Bon, par voie de conséquence, en plus, ce que j'ai dit s'est révélé être tout à fait exact. Non, je ne suis pas du tout une délatrice. J'ai raconté une anecdote qui me concernait, personnellement. Point barre. Ensuite, à chacun d'en tirer les conséquences qu'il a envie de tirer. Il veut me mettre ça sur le dos. Ben écoutez, je pense que c'est lié à un très grand énervement.
Hein, au-delà du cas de François Bayrou, Corinne Lepage, est-ce qu'on n'a pas un problème quand même dans ce pays de parce que des lois de concernant le financement des partis politiques, il y en a eu je ne sais combien, des lois de moralisation aussi de la vie politique, des lois sur la transparence, et on voit aujourd'hui le cas de Jean-Paul Delevoye, au commissaire en retraite, qui visiblement n'a pas fait toutes les déclarations d'intérêt qu'il devait faire. On a un souci de ce côté-là dans notre pays.
Alors, moi j'étais très choquée que François Bayrou dise de toute façon quand on fait de la politique, tout le monde est mis en examen. Non. Heureusement, non. Bon, heureusement, non. La création de la haute autorité et le travail du président Nadal, qui doit être salué ici, est tout à fait important, intéressant, remarquable et nécessaire.
Jean-Louis Nadal qui vient donc qui va quitter ses fonctions
oui,
après avoir
mais qui a vraiment cette porté cette institution et je dirais très sereinement, sans agressivité, mais il a fait ce qu'il devait faire. Bon, vous savez, il y a chez un certain nombre de politiques peut-être l'idée que parce que on est politique et près du pouvoir, on passera toujours à travers les gouttes. Ben, c'est de moins en moins vrai, et heureusement. Parce que je crois très profondément que le fait de servir son pays, c'est une... comment dire cela ? C'est créateur de beaucoup de devoirs et d'aucun droit. Et certainement pas celui de se permettre des choses que d'autres ne se permettraient pas. Il y a dans un vieux film que j'adore, qui est un film de Gabin, qui s'appelle Le Président, que vous avez oui. sans doute vu. Il y a un passage dans le film où un gars qui est conseiller général vient enquiquiner le président du conseil qui est Gabin jusque à Matignon. Il arrive à le coincer dans l'escalier et lui dit « Tu peux tout faire » parce qu'ils étaient amis d'enfance. Et Gabin lui répond « C'est précisément parce que je peux tout faire que je ne ferai rien. » Ça, pour moi, c'est exactement ce que doit être la ligne du politique, c'était la ligne qu'avait le général de Gaulle. Hein. Voilà. Et donc, tout ce qui est fait de manière transparente, et tout à l'heure, j'étais très critique à l'égard d'Emmanuel Macron, mais sur ce sujet-là, à l'Élysée, Emmanuel Macron, de ce que j'ai lu, fait la différence entre ce qui est sa vie personnelle et ce qui est la vie publique. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable.
Dans un instant, Corinne Lepage, on va parler de vous, hein, de votre parcours. Tout simplement, le temps d'écouter Super Bravo, il n'y a pas foule.
Sentir le vent tourner de l'œil.
Il n'y a plus foule. Super bravo, choix musical, signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Corinne Lepage, vous avez grandi à Paris, on va dire dans une famille aisée, c'est ce que vous avez
dit. Moyenne bourgeoisie, disons.
Votre père était né chez...
NEZ, oui.
Chez Rochas, c'est ça?
Absolument.
Votre maman, elle a disparu beaucoup trop tôt,
oui.
Emportée par une tumeur au cerveau alors que vous n'aviez que 13 ans.
Exact.
Et vos frères jumeaux, 10 ans. Ça, c'est un drame qui marque une vie, forcément.
Oui, oui. J'ai toujours eu le sentiment que je devais vivre pour deux. Et le sentiment très marqué de ce qu'était l'injustice, parce qu'une jeune femme de 34 ans, malheureusement il y en a d'autres, hein, qui décède d'un cancer du cerveau, c'est horrible. Et voilà, donc ma vie, je l'ai vécue pour moi et pour ma mère.
Vous dites qu'une de vos enseignantes a joué un rôle très important, oui. Qu'elle a été d'une certaine façon votre mère intellectuelle. C'était une prof du lycée Molière ici à Paris.
Une femme exceptionnelle, s'appelait Mademoiselle Lajoignie. Je l'ai eue comme prof de français en sixième et quand ma mère est tombée malade, elle a été la voir en lui disant, en lui expliquant ce qui lui arrivait et en lui disant de veiller sur moi. Et donc maman est décédée, j'étais en quatrième et elle m'a complètement formée intellectuellement. Ce que j'ai pu faire dans ma vie, je le dois à mon père qui vient de disparaître il y a quelques jours et qui m'a fait aimer la lecture. Et je le dois à cette femme qui m'a complètement formée intellectuellement.
Qui vous a appris, dites-vous, l'honnêteté intellectuelle et la passion d'apprendre. Alors, vous avez fait Sciences Po, Corinne Lepage, vous avez continué ensuite en droit public, vous êtes docteur en droit, avocate depuis 1974. Pourquoi vous êtes spécialisée en droit de l'environnement? Il y avait une passion particulière pour cette matière?
En fait, j'y suis venue doublement. J'ai déposé un sujet de thèse en 1975, quand j'attendais ma fille, sur un sujet qui, à l'époque, paraissait complètement aberrant, qui était la question des externalités du coût social en droit public. J'ai choisi mon directeur de thèse, qui était Prosper Veil, qui était un professeur exceptionnel. Je lui ai dit, voilà, monsieur le professeur, je voudrais traiter ça. Il m'a dit, je vois même pas de quoi vous me parlez. Il me dit, faites-moi une note pour me convaincre. Je l'ai convaincu, j'ai fait ma thèse. Et les externalités, je suis tombée évidemment sur les pollutions. Et puis, j'ai eu la chance en 1977 de rencontrer Christian Huglot, qui est mon mari.
Avec qui vous travaillez depuis
toutes ces années. Avec qui je travaille depuis 1978. Nous sommes mariés un petit peu plus tard. Et Christian avait été le premier avocat, en fait, à avoir un dossier d'environnement qui était la pollution de la Méditerranée par les bourrouges de la montée d'Issonne, les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui à Cassis, hein, c'est la même histoire. Et donc c'est grâce à lui que le dossier Amoco est arrivé en 1978, nous venions de fonder notre cabinet.
Alors justement, à propos de ce dossier, on va écouter ce qui se disait en mars 78, France Inter, Patrice Bertin.
Sans rien exagérer, c'est une catastrophe écologique sans précédent qui s'est abattue sur les côtes du Finistère dans la région de Port-Sal. La marée noire qui s'échappe des soutes du pétrolier libérien Amoco-Cadiz, coupée en deux par la tempête la nuit dernière, est gigantesque. On sent le pétrole jusqu'à 60 km à l'intérieur des terres. Plusieurs habitants du littoral ont même été réveillés en sursaut par l'odeur écœurante.
Voilà, pour cette marée noire, la procédure judiciaire a duré des années. Vous avez gagné aux États-Unis, Corinne Lepage. C'est ça qui vous a fait connaître auprès du grand public. Surtout qu'après, il y a eu aussi le dossier de l'Erika. Il y a eu tous ces dossiers dont vous vous occupez depuis toutes ces années. On l'a dit, le terrain judiciaire est un terrain important, peut-être plus important que le terrain politique. Je dis ça parce que vous avez écrit il y a des années un livre intitulé « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». Ça, c'était quand vous étiez ministre de l'Environnement.
Quand je suis sortie du gouvernement, alors je voulais pas dire que j'avais rien fait, parce que je suis sotte, mais enfin, j'ai des limites quand même à ma sottise. Donc je vais pas dire que j'avais rien fait, mais je voulais expliquer combien c'était difficile d'innover. Et que lorsque l'on vous proposait quelque chose, on commençait toujours par vous dire « c'est pas possible ». « C'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est pas possible, c'est pas permis, c'est pas possible, on l'a jamais fait, c'est pas possible, ça va pas plaire, etc. » Voilà. Si j'ai choisi effectivement de ne plus me battre maintenant sur un terrain politicien, même si je continue à présider CAP21, mais c'est François Damerval qui aujourd'hui est le président exécutif du mouvement, c'est parce que je pense que par le droit, je peux faire avancer énormément de choses. Et le fait est que la première interdiction du glyphosate, c'est le tribunal administratif de Lyon, c'est le droit. Les mers anti-pesticides, c'est encore du droit. On va parler du climat. Nous avons lancé avec Christian le procès de Grande-Synthe, qui est le premier procès climatique en France, avant notre affaire à tous. Les questions liées à les risques industriels, c'est encore du droit. Voilà, c'est une manière de défendre les gens et de faire progresser la société dans le sens dans lequel elle doit
aller. De manière parallèle à ce qui se produit aussi au niveau international, la COP25 s'achève à Madrid. Le résultat, pour l'instant, on l'attend, ça n'a pas l'air mirobolant.
Mais il ne se passera pas grand-chose parce que les États ne font plus rien. Qu'est-ce qui bouge aujourd'hui? C'est les procès climatiques. Vous en avez 1500 dans le monde. Ce sont des juges, à commencer par le juge des Pays-Bas, qui obligent les Pays-Bas à changer le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas les Pays-Bas qui ont décidé de le faire, c'est le juge qui les a enjoints à le faire. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup, beaucoup de pays du monde.
Et puis c'est aussi la conscience des citoyens qui est en train de changer. Il y a beaucoup d'actions. Et ce qui suit va vous intéresser, Corinne Lepage, parce qu'on arrive aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors on connaît tous les vide-greniers qui ont beaucoup de succès, surtout en été. Il y a un autre phénomène qui est en plein boom, ce sont les gratiférias. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Le principe, c'est quoi? C'est consommer sans rien débourser?
C'est ça. On laisse le porte-monnaie à la maison. Il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de caisse. La vaisselle, les bouquins, les vêtements, les chaussures, les meubles, les jouets, l'électroménager, tout est gratuit.
Alors comment ça marche? C'est du troc, c'est ça? J'échange mon grille-pain contre un chauffe-biberon?
Pas du tout, il n'y a pas de règle. En fait, c'est une espèce de chasse et croisée entre des personnes qui déposent ce dont elles ne veulent plus et des personnes qui viennent se servir. Alors, ça peut être les mêmes. On dépose, on prend, mais pas forcément. C'est ça qui est très sympa, vous allez voir.
Alors, direction Iversay, c'est un tout petit village de la Vienne qui organisait dimanche dernier sa 8e gratiféria. Et comme à chaque fois, eh bien, elle a fait carton plein. Plusieurs centaines de personnes sont venues, parfois très loin, attirées par ce concept insolite et forcément très convivial.
Entrez, c'est gratis, allez-y. Donc, vous prenez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction.
Pas de caisse,
non.
Et ça, pour se retraiter, c'est une première, on le sent un petit peu désemparé dans le rayon des ustensiles.
Un peu gêné même, de pouvoir se servir gratis. Regardez la poêle qu'on donne, là, elle est toute neuve. Qu'est-ce qui fait tourner la planète? C'est le pognon.
Vous avez tendance même à leur demander, je vous dois quelque chose?
Ah oui, combien je vous dois? Ce pichet là, qui est merveilleux, je le prends et je m'en vais avec, je suis gêné. Presque comme si je le volais, il n'y a personne derrière, voilà.
Gladys, ça arrive souvent?
Oui, ils n'en reviennent pas.
Ils n'y croient pas? Pour eux, c'est...
Oui, c'est inadmissible. Parce que partout on paye, c'est pour ça. Hein. Vous payez partout. Alors dès qu'on donne, les gens sont étonnés. Hein. Ah moi, il y en a plein qui me l'ont dit. Hein. Ben non, on va quand même vous donner quelque chose. Ben non. C'est gratuit, madame. Ah ben elle dit que quand on va ailleurs, on paye. Je dis oui, mais nous, c'est gratuit.
Qu'on vienne d'ailleurs les mains vides ou les mains pleines.
Il n'y a pas de nécessité de donner pour prendre. On vient les mains vides, on peut prendre autant qu'on veut. On vient donner, on peut repartir sans rien prendre.
Ça reste qu'une démarche écologique ou ça va plus loin maintenant?
Ça reste une démarche écologique à la base, mais ça va plus loin dans le sens où les gens aujourd'hui ont vraiment besoin d'avoir des choses gratuites. Là, depuis ce matin, on a vu au moins défiler 300 personnes déjà.
Puis de la Noël qui approche, hein. Bon, pour les familles qui sont dans le besoin.
Il y a pas mal de personnes qui viennent chercher des cadeaux?
Ah bah, il y en a qui disent ça pour offrir, c'est beau.
Il n'y a plus de tabou d'offrir un cadeau?
Non, ça ne gêne pas du tout. Hein. Avant, oui, on n'osait pas, parce qu'on s'est dit ça ne va pas plaire. Mais maintenant, maintenant personne n'y fait attention à ça. Hein.
La preuve.
J'ai pris plein de jouets pour des enfants qui n'ont pas la chance de... Ah, ça va me faire pleurer. De faire un Noël.
C'est-à-dire que vous, c'est même pas pour vous?
Ah non! J'ai des collègues qui travaillent mais qui n'ont pas assez d'argent pour payer des beaux cadeaux à leurs enfants.
Madame, bienvenue.
Qu'est-ce que vous apportez là?
Alors, il y a des vêtements puis un sac à main.
Vous pouvez laisser là, on va le déballer, ouais.
Ça défile.
Y a autre chose? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour les bains de pieds.
Alain, il y a beaucoup de choses neuves.
Énormément de choses. Bah, c'est des gens, des fois, on leur a offert et puis ils en veulent plus. Vous ont acheté, ils s'en servent pas.
Betty, par exemple.
J'en ai emmené une pleine voiture.
C'est quoi ça?
C'est un aspirateur. Moi, je trouve que la gratiféria, on vit dans un monde tellement dur que c'est un échange de bons procédés. Moi, je me retrouve à la retraite, j'ai perdu 500 euros. Aujourd'hui, on compte.
Comme ses deux copines, rayon vêtements.
Ah non, mais moi, je vais plus dans les magasins. C'est une horreur de voir le prix des vêtements. C'est abusé. Là, je repars, j'ai dépensé, au pire, je vais dépenser 1 euro pour le café. Et même pas, c'est gratuit. Comme ça, au moins. Ah, c'est mignon, ça. Ça, j'aime bien.
Ouais, bah j'adore le violet donc.
Et bah voilà. Aujourd'hui, on est tous en recherche de bons plans.
Bah, de bons plans et puis surtout arrêter de faire des déchets. C'est plus possible en fait, faut qu'on arrête. Et les nouveaux modes de consommation, c'est ça. Les gens tendent de plus en plus vers les gratiférias, l'échange, le partage parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est tellement mieux.
Ça permet de se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin et puis de récupérer d'autres choses.
C'est super quoi.
Qu'est-ce que vous avez trouvé là pour l'instant ?
Eh ben, une petite veste pour le printemps, des robes, des jupes. Puis après, bon, on va aller voir vers les pulls et les pantalons d'hiver.
Là où Agnès et Christine fouille dans les bacs.
La gratif, c'est nous, on en fait plein.
Les gens sont bien plus humains ici qu'en brocante ou en vide-grenier.
Ah bon, c'est-à-dire ?
Il n'y a plus de barrière d'argent, c'est libre, c'est complètement libre. Et plus il y en aura, mieux ça sera.
Au plus grand bonheur des tout petits.
C'est sympa, elle renouvelle les jeux dans sa chambre, elle enlève les vieux, elle prend des nouveaux.
Comment tu t'appelles ?
Lola.
Tu repars avec quoi ?
Un chat.
Un petit chat en peluche ?
Ouais, il sait marcher.
Comment ça, il sait marcher ?
Parce qu'il a des piles.
Qu'est-ce que t'as pris encore ?
J'ai pris un nounours et puis j'ai pris ça.
Ah, un petit carnet ?
Ouais, et en plus, c'est une poupée.
Mais tu as pris un sac entier ?
Ouais.
En fin de journée, qu'est-ce que vous faites de tout ce qui reste ?
Alors, tout ce qui reste en fin de journée, on le prépare pour le lendemain, parce que le lendemain, il y a le Secours Populaire qui récupère tout ce qui reste.
Tu peux prendre des chaussures ? J'en ai deux sacs complets. Allez, hop, roulez jeunesse.
Merci, Sandrine. Si on veut des infos, il y a une page Facebook, hein, c'est ça, Gratiféria, pour savoir...
Exactement, ou tous les sites de Brocante, ou de Vide-Grenier.
Merci mille fois, Sandrine Houdin. Corinne Lepage, vous qui êtes une adepte de l'économie circulaire, qu'est-ce que vous en dites de ce système ?
Bon, c'est pas seulement le fait de prendre comme ça gratuitement, c'est les rapports humains que ça induit, c'est ça qui est intéressant. Alors, derrière ça, il faut quand même bien voir aussi qu'il faut que les gens puissent vivre. Donc on a un nouveau modèle économique à inventer, parce que ça, c'est très bien, mais si ce n'était que ça... comment les gens gagnent leur vie. Ils ne peuvent plus la gagner du tout. Donc il faut qu'on invente quelque chose d'autre. Et c'est une partie de l'économie circulaire. Il y a l'économie sociale et solidaire. Là, il y a des échanges d'argent. Mais je dirais que la vocation sociale est très importante. Ensuite, derrière, vous avez quelque chose que je trouve très intéressant, dont, à mon avis, on ne parle pas assez, c'est les entreprises à mission. C'est-à-dire toutes les entreprises qui disent « Oui, il faut que je gagne ma vie, mais mon but, c'est avant tout de remplir une mission sociale. » et d'intérêt général, par mon activité économique. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des changements qui s'initient.
Au niveau des citoyens, c'est ça qui est intéressant.
C'est par les gens que tout ça vient, parce que il faut être pragmatique, il faut bien qu'on s'adapte à tout.
Il y a un changement de mentalité, il y a un déclic qui s'est produit sur la question de l'environnement depuis quelques mois, vous êtes d'accord là-dessus ?
Totalement, hein ? Totalement.
Les choses ont changé.
C'est... parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dedans. Vous savez, quand il y a 20 ans, je commençais à parler de changement climatique. Les gens me regardaient en me disant que j'étais un peu tapée. Non, c'est vrai, personne n'y croyait. Il y a 10 ans, on disait, oui, il y a un problème, mais c'est très loin. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on est dedans. Donc, il faut bien s'adapter.
Eh bien, on en parlera tout à l'heure au téléphone sonne, puisqu'on s'intéressera au vélo et aux nouvelles mobilités. 01 45 24 7000.